dans ce passage qu'on va lire ce matin, qui va être notre texte de base, l'apôtre Paul était un homme qui était persuadé. Hein, Romains chapitre 8, 37 à 39. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez chercher, parce qu'on va rester pas mal sur ce passage-là. Il dit ceci. Mais dans toutes ces choses, alors toutes ces choses, c'était, il venait de lister une longue série d'épreuves, puis c'était pas une écharde dans le pied, et puis un voisin qui fait du bruit la nuit. Hein. C'était vraiment des choses sérieuses. Il était en prison, il était menacé de mort, on avait essayé de le lapider, ce genre de petites choses, quoi. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé. C'est le même mot qui donne le mot conviction. J'ai l'intime conviction. Je suis persuadé. C'est le même mot que le mot foi aussi, en tout cas la même racine. Je suis pleinement persuadé, convaincu que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Paul était par excellence un homme qui vivait de conviction. Ça ne devait pas être un homme facile à vivre. Moi, j'ai vécu en équipe sur plusieurs champs de mission. Puis on sait que souvent, une des premières difficultés pour les missionnaires, c'est d'arriver à s'entendre dans l'équipe. La première raison pour laquelle les missionnaires rentrent chez eux, c'est parce qu'ils ne sont pas arrivés à s'entendre avec leur équipe. Paul devait être un chef d'équipe particulier. Je ne sais pas si j'aurais, avec tout le respect que j'ai pour lui, si j'aurais aimé être dans son équipe. D'ailleurs, certaines dans la Bible ne sont pas arrivées à travailler avec lui. Et puis, ils se sont séparés. Mais parmi les grandes qualités qu'il avait, c'était un homme de conviction. S'il était persuadé de quelque chose, alors il fallait littéralement lui couper la tête pour l'arrêter. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Et à la fin de sa vie, mais c'est ce qui s'est passé. Hein. Et en fait, c'est ça. Paul vivait par ses convictions, et il en est mort aussi. Mais plusieurs philosophes, même non chrétiens, développent cette idée. On ne va pas vivre correctement si on n'est pas prêt à mourir pour quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'on veut mourir. Hein. Ça veut dire que si on n'a aucune conviction pour rien, alors notre vie va être fade, tiède. Encore une fois, on veut vivre autant longtemps que Dieu nous prêtera vie. Mais si je fais ça tant que c'est pas dangereux, je fais ça tant que c'est raisonnable, je fais ça tant que ça me rapporte quelque chose, je fais ça tant que tout le monde est d'accord, alors je vais exister, mais je vais être dans la catégorie concombre de mer. Et peut-être je vivrai un peu plus longtemps. Hein. Paul aurait pu peut-être vivre 10 ans de plus avec sa tête sur ses épaules, mais ça n'aurait pas été meilleur. Ça n'aurait pas été une victoire. Alors, ici, dans ce cas présent-là, il avait une conviction très très forte. Et puis moi, cette dernière semaine, j'ai été très touché, profondément remué, en lisant un livre extraordinaire. Vous allez en entendre parler, encore et encore et encore, parce que quand j'aime quelque chose, je le dis. J'ai pas d'action dedans, hein, c'est pas moi qui l'ai écrit. Et j'espère qu'on aura bientôt l'auteur parmi nous ici, on va l'inviter. C'est un Suisse. Peut-il venir quelque chose de bon de Suisse? Mais oui, hein. C'est une paraphrase des Écritures, quand même. C'est une question rhétorique qui voulait dire oui. Hein. Bon, vous avez compris, ne me lapidez pas dessus. Alors, et ce livre s'appelle « Deux, trois choses à faire en arrivant au ciel ». Alors, il ne faut pas se laisser arrêter par la couverture, pour certains. Et j'ai aimé ce livre, et ça peut paraître étrange, mais j'ai aimé l'auteur que je ne connais pas encore, et que j'espère rencontrer bientôt. Parce que j'ai retrouvé dedans... Alors, l'auteur, c'est Pierre-Yves Wallen. C'est actuellement le directeur... Wallen, je ne sais pas comment on prononce. Wallen, ok, bon, voilà. Il est actuellement responsable de la partie biblique de la Ligue Suisse pour la lecture de la Bible. Vous trouvez son nom dans les lecteurs. Il a écrit de très beaux livres de poésie, prières, poésie, avec des photos. C'est un photographe. Quelqu'un qui a perdu sa première épouse de façon tragique, qui a perdu sa sœur, d'autres personnes. Et suite à ça, il a écrit ce livre qui est vraiment plein d'humour. Ça se passe au ciel, il y a George Clooney, on apprend que Dieu aime la série Friends. Donc vous voyez, pour le côté humour, c'est léger. Mais sérieusement, c'est un livre extraordinaire, et moi j'ai beaucoup aimé. J'y ai retrouvé, David, les idées de C.S. Lewis, Le Grand Divorce, Chesterton, toutes ces choses-là. Mais surtout, ça m'a fait réaliser une fois de plus la grandeur, la beauté de l'espérance chrétienne, et surtout son importance pour notre vie. Hein. On peut toujours tomber dans des excès d'un côté ou de l'autre. Soit, voilà, j'ai été sauvé, Christ est mort à ma place, maintenant je vis, puis j'attends le ciel. Ça, c'est faux, c'est pas ce que la Bible enseigne. Et puis, on peut, de l'autre côté aussi, en tant que croyant, vivre comme si on allait passer l'éternité sur cette terre dans la condition où on est, et puis on vit que pour ça, et c'est nul aussi. Mais la Bible nous parle d'autre chose. On est sur terre pour y vivre tant que Dieu le veut. Mais en fait, ce qui m'a touché dans ce livre, et c'est des choses que je savais, mais que j'avais peut-être oubliées, et qui sont amenées ici d'une façon très touchante, c'est qu'en réalité, il y a juste une continuité entre cette vie ici, et puis ce qu'on appelle la vie au-delà, la vie là-bas, la vie après. Hein. Pour quelqu'un qui connaît Jésus-Christ et qui a été mis en relation avec lui par la nouvelle naissance, il y a continuité. C'est pas avant et après. Hein, si je peux prendre une image, imaginez que vous soyez né dans une voiture et vous avez passé votre vie dans une voiture et vous êtes déplacé en voiture, mais vous allez quelque part. Hein, et à un moment, vous arrivez au bord de la mer. Et puis là, on ne peut pas continuer en voiture. Alors qu'est-ce que vous faites? Il y a un bateau qui vous attend, vous descendez de voiture, vous montez dans le bateau et vous continuez. C'est triste de laisser une voiture dans laquelle vous vous êtes déplacé pendant des années. Mais ce n'est pas si triste que ça. Parce qu'en réalité, vous, vous êtes passé d'un véhicule à un autre, c'est la même personne. Hein. Vous avez juste laissé certaines choses derrière. C'est exactement ça. On vit, on grandit, on apprend des choses, on développe une relation avec Dieu, et à un moment, Dieu dit, bon, maintenant, pour l'étape suivante, là, la voiture, ça va pas, quoi. Parce que la voiture, pour traverser l'océan, c'est pas au point. Hein. On la laisse au bord de la plage, monte dans le bateau, et on va continuer. Et puis, on s'aperçoit qu'en fait, il n'y a rien qui ne peut nous séparer de lui. Hein. Parce que, qu'est-ce qui est tragique dans toutes les morts, quelles qu'elles soient? C'est justement cette idée de séparation. Hein. Et le mot qui est utilisé ici, lorsque Paul dit « Je suis persuadé que ni ça, ni le reste, ni rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ », c'est un mot très très fort qui était utilisé pour le divorce notamment, hein. Ça fait partie des grandes souffrances sur cette terre. C'est un mot qui veut dire mettre de l'espace et mettre de la distance entre deux choses. Et Paul avait cette persuasion, cette conviction, cette certitude, on pourrait dire cette foi, c'était quelque chose qui était indévisable pour lui, que rien ne pouvait se mettre entre lui et cette communion avec l'amour de Dieu. Et y compris ce qu'on appelle sur terre la mort, hein, y compris ce passage de la voiture au bateau. Non, oui, je vais changer de véhicule, je vais changer de moyen de déplacement, le prochain est meilleur que celui que j'ai, mais ça reste moi, et ça reste lui, et il n'y a rien entre. Hein. Et c'est pour ça que si cette idée vous intéresse, je vous conseille de lire Le Grand Divorce de C.S. Lewis, qui explique d'une façon très originale aussi, hein, c'est particulier, mais si on aime ça, qu'en fait, quand on rencontre Dieu, c'est rétroactif. Ça peut paraître choquant, mais un non-croyant qui va mourir non-croyant, en fait, il est né en enfer. Un croyant, il est né au paradis. Pourquoi? Parce que ça, c'est rétroactif. Hein. En fait, si Christ m'a racheté aujourd'hui, il a racheté toute ma vie. Il a racheté ma vie depuis le moment où je suis né, depuis ma conception même, on peut dire. Et puis tout ça, moins les mauvaises choses, moins les blessures, moins le péché, moins mes erreurs qui seront éliminées. Parce qu'un des avantages quand on passe de la voiture au bateau, c'est qu'on laisse les bagages derrière. Hein. Vous savez, c'est toutes ces choses qu'on n'aimerait pas avoir, mais qu'on a. Hein. Comme les kilos en trop, les cheveux en moins, les mauvaises habitudes, les mauvaises pensées, les erreurs, les échecs, ces choses-là. Tout ça, ça reste dans le coffre de la voiture et on reste qui on est, réellement. Hein. Tout ce qu'on a développé, vécu, expérimenté avec lui, tout ce qu'on a partagé dans sa présence, ça fait partie de nous pour toujours. Et l'éternité, ou le, ce qu'on appelle le ciel, le paradis, bien que paradis ça veut dire jardin, hein, c'est pas un endroit statique. L'éternité, c'est pas le fait qu'il n'y ait plus de temps. C'est que le temps n'a pas de fin. C'est différent. Hein. C'est pas... Plus fort ? Oui, merci. Un petit peu plus fort. Et moi, je vais parler un peu plus fort. Alors, montez les deux. Donc l'éternité, c'est pas juste hein, quelque chose où le temps s'arrête. Non, c'est que on aura toujours du temps. Mais il y a des choses à faire. On va continuer d'apprendre, de progresser, de développer, parce que on a Dieu à découvrir et que Dieu est infini. Donc, comment on peut s'arrêter de découvrir quelque chose qui est infini? Et c'est une des choses qui est présentée de façon très amusante dans ce livre, c'est qu'au début, lorsque Dieu accueille ce personnage, c'est un roman, hein, c'est une fiction, attention, hein, puis il dit bien, mais il arrive au ciel et Dieu lui fait une farce en lui offrant le ciel comme il pensait. Et puis il se retrouve sur un grand canapé rouge, suspendu dans le ciel avec des nuages. Et puis il est là et il se passe rien. Et puis Dieu s'en va un moment, il le laisse là comme ça. Quoi. Puis il essaie de descendre du canapé, mais il n'y a rien, il n'y a que des nuages autour. Quoi. Et bon, il fait une petite sieste, il se réveille, il est toujours là sur son canapé rouge, il n'y avait rien qui se passe. Et de temps en temps, il voit passer de loin un autre nuage avec quelqu'un en blanc. Tout est blanc, il n'y a que du blanc par le canapé. Pourquoi il était rouge, je ne sais pas. Mais... Et puis de temps en temps, un personnage avec une harpe et un petit ange qui traverse comme ça. Et puis il se dit, mais si c'est ça l'éternité, mais envoyez-moi en enfer qu'il se passe quelque chose, moi. C'est terrible. Et puis Dieu arrive et puis c'est une surprise, c'était une blague. Ça, c'est ce que toi, tu imaginais. Puis maintenant, viens voir comment c'est autrement. Et là, je ne vais pas tout vous raconter, si on veut plus. Mais il a d'énormes surprises. Et entre autres, il va découvrir qu'il retrouve des gens qui, en fait, étaient vivants quand lui est mort. Mais vu que c'est il y a encore du temps, mais c'est hors du temps, c'est pas un souci, tout est là. Et puis il retrouve sa maison, et puis sauf certaines choses qui ont disparu. Alors c'est des images, et puis on peut pas dire que c'est comme ça. Mais ce que je trouvais vraiment intéressant, c'est justement cette idée que il y a une continuité dans ma vie, il y a un sens. Hein. Ça élimine tellement de frustrations. Je sais pas pour vous, mais souvent je me dis, il y a un livre que j'aimerais écrire, c'est toutes ces vies que j'aurais aimé vivre. Hein. J'aurais aimé passer une vie à apprendre à jouer du violoncelle et jouer dans un orchestre philharmonique. Et puis j'aurais aimé passer ma vie à faire ça. Mais j'aurais aimé passer ma vie à construire des maisons en bois, apprendre à quelqu'un qui sait faire, hein, comme il y en a quelques-uns ici. J'aurais aimé passer une vie à faire ça. Mais j'aurais aussi aimé passer une vie à faire... Et puis toutes ces choses-là, ces désirs qui sont au fond de nous, de choses qu'on aimerait faire, puis on n'a pas le temps de les faire dans une vie. Puis encore plus, si on a choisi de faire ce que Dieu nous demande, on a encore moins de temps. Puis Dieu dit, non mais ça c'est pas grave, tu vas avoir du temps pour faire ça, et d'autres choses. Donc au ciel, j'apprendrai à jouer du violoncelle, je ferai des maisons en bois, et plein d'autres choses, j'écrirai des livres. C'est une façon imagée de le dire, mais elle contient une réalité. Pourquoi ? Parce que j'ai la conviction, et je veux qu'elle se développe toujours plus comme Paul, que rien ne peut se mettre entre l'amour de Dieu et moi. Donc s'il n'y a rien qui peut s'y mettre, pourquoi tout d'un coup il y aurait une rupture qui fait que je vais quitter cette terre et puis je vais être un petit machin volant blanc, sans substance, sans goût, sans idée, tous les mêmes, avec juste une petite nuance de couleur différente parce que Dieu a décidé de... Non. Ce que je suis réellement, et encore une fois, moins mon péché, mes erreurs, mais tout ça, c'est éternel, hein. Et on est à l'école ici, on est en formation, on est en préparation, on prend des cours intensifs ou pas. Et puis, en fait, c'est là où on s'aperçoit, et c'est pour ça que ça paraît tellement facile pour Paul, lorsque Paul parlait de quitter cette terre. Hein. À plusieurs reprises, il dit, j'aimerais déjà être là-bas, ça serait mieux. Mais il y a encore 2-3 trucs à finir ici à cause de vous, parce que vous êtes long à comprendre, et puis... Donc, je reste encore avec vous. Mais je serais mieux là-bas. Hein. Et pourtant, Paul n'était ni suicidaire, ni abattu, ni c'était pas du tout son problème. Et lorsqu'il arrive à la fin de sa vie, lisez les Épîtres à Timothée, j'ai toujours trouvé ça encourageant, la façon dont, après une vie, on pourrait dire, de galère, alors qu'il avait bien commencé. Hein. Paul est né dans une famille riche, a eu une très bonne éducation, il avait une position sociale, il avait tout ce qu'il fallait, il aurait pu être suisse. Hein. Il avait tout ce qu'il fallait pour réussir. Il avait déjà un compte en banque, la Rolex qu'il attendait avant 50 ans. etc. Et puis, Paul, à la fin de sa vie, c'est un gars qui a plus d'argent, plus de réputation, presque plus d'amis, plus de santé, plus rien. Hein. Parti de tout, il est arrivé à rien. Sauf que, lisez comment il parle avant la fin de sa vie dans l'Épître à Timothée. Hein. J'ai combattu le bon combat, j'ai gagné la course, je suis arrivé au bout. Maintenant, je vais franchir la ligne d'arrivée et celui qui a toujours voyagé avec moi, mais sans le voir, je vais enfin le voir et il m'attend. Les gars, c'est pas que je sois content de plus vous voir, mais je suis tellement content d'y aller, quoi. À bientôt! Il y a tellement de substance, de joie et je dirais, en fait, on réalise que plus on a vécu avec Christ de façon intense sur cette terre, et moins le passage qu'on appelle la mort est quelque chose de traumatisant. Pourquoi ? Parce que c'est pas un choc. Hein. Je le connaissais de mieux en mieux, mais juste, j'arrivais pas encore à tout voir. Mais j'y étais. Et puis là, maintenant, ben, j'y suis. C'est clair que pour les croyants, et puis il y en aura, la Bible le dit, hein, elle utilise une expression un peu barbare là, dans 1 Corinthiens 3, qui seront sauvés comme au travers du feu. C'est-à-dire des gens qui, un jour, à un moment, dans une expérience particulière, dans une difficulté souvent, ont rencontré Christ, réellement, sont nés de nouveau, réellement, et puis ont fait le choix de vivre leur vie sans lui. Ces gens-là sont des enfants de Dieu. Et c'est un peu le cas d'ailleurs du héros de ce livre. Ça va être un choc par contre. Parce que tout d'un coup, ils vont se retrouver dans un monde qui leur est inconnu, avec quelqu'un qui les connaît, mais qu'eux connaissent très peu. Hein. Et puis avec toutes les appréhensions qu'il y a avant. Mais pour le croyant qui va grandir dans cette conviction, et surtout expérimenter l'amour de Dieu, alors l'âge qui passe, la vieillesse qui vient, bien sûr il y a les inconvénients qui vont avec, puis ça on n'aimera jamais, puis c'est normal. Hein. Tous les désagréments, sans parler des souffrances, de l'humiliation qu'il peut y avoir avec. Mais le fait d'aller vers ce but-là, ça n'a rien de triste, c'est pas morbide, c'est pas déprimant, c'est pas la fin. Sinon, alors c'est plus l'espérance. C'est plus l'espérance chrétienne. Paul le dit dans 1 Corinthiens 15, si nous espérons seulement dans cette vie, nous sommes les plus misérables de tous les hommes. Il ne dit pas qu'il ne faut pas espérer dans cette vie, il dit seulement. Parce qu'en fait, c'est la même vie. On va continuer, parce que rien ne peut nous séparer. Et la liste qu'il fait, on n'a pas le temps d'étudier dans le texte original ce matin en détail chaque mot, mais effectivement, il a tout prévu. Hein. Il n'y a rien, quoi. La mort, la vie, les anges, les autorités, les dominations, les créations, les choses en haut, les choses en bas. Il n'y a rien, 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 rien qui peut se mettre entre lui et nous. Alors, on va avancer dans ce sens-là, et en fait, on va réaliser que c'est pas du tout quelque chose qui va nous faire vivre habillé en noir. Bon, on peut s'habiller en noir, mais c'est pour d'autres raisons. Et puis, être triste, et puis marcher. Oui, vous savez, un jour on va mourir. Alors c'est... Non, au contraire. Hein, c'est cette compréhension-là qui va donner tout son sens, tout son goût, tout son piquant à notre vie, et qui va nous permettre d'aller de l'avant, hein, et puis d'être prêt à faire ce qu'il y a à faire, parce que... il n'y a rien qui peut me séparer. Alors, moi, je n'ai pas le même niveau, en tout cas, ou degré de persuasion que Paul avait. Il y a des moments où c'est tellement réel, et puis il y a des moments où c'est tellement irréel. C'est où ? Oups, c'est passé où ? Je l'avais il y a 5 minutes, je ne sais plus où c'est. Puis ça, c'est aussi normal, c'est naturel, c'est humain, parce que justement... On est encore en voiture, on est encore avec nos bagages, on est encore ici, il y a encore les pneus qui touchent la route, il y a encore toutes ces choses-là, mais c'est vers ça qu'on va. Et on peut rapprocher ce passage d'un autre passage où Paul parle aussi, et dans Éphésiens 3, 17 à 19, il dit ceci, « Que Christ habite dans vos cœurs par la foi, donc par cette, c'est pas une auto-persuasion, mais par ses convictions, hein, que Christ habite dans votre cœur par la foi, enraciné et solidement fondé dans l'amour. Vous serez ainsi à même de comprendre, avec tous ceux qui appartiennent à Dieu, combien l'amour du Christ est large, long, élevé et profond. Oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut en connaître, et vous serez ainsi rempli de toute la plénitude de Dieu. » Ce passage est fantastique et très très riche, et on va s'arrêter juste sur trois mots particuliers. Hein. Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi, enraciné, solidement fondé dans l'amour, vous serez ainsi à même de comprendre. Le mot ici pour comprendre veut dire saisir fortement, s'emparer de quelque chose pour le garder. C'est pas juste savoir, c'est entendre, oui, mais saisir, s'approprier et le serrer contre soi. Avec tous ceux qui appartiennent à Dieu, combien l'amour du Christ est large, long, élevé, profond. Et vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut en connaître. Alors, ça paraît une contradiction, hein. Comment on peut connaître quelque chose qui surpasse tout ce qu'on peut connaître? On a deux mots différents dans le texte original et c'est très intéressant. Hein, vous serez à même de connaître, le premier verbe parle de relation. Hein, c'était le mot qui était utilisé toujours pour Adam connu Ève, hein, et puis ils ont eu des enfants. Ça ne veut pas dire que Adam savait tout sur Ève. Ça veut dire qu'il était en relation intime avec Ève. Et je peux connaître quelqu'un sans tout savoir sur lui, sans tout comprendre de sa vie. Mais on se connaît, on échange des choses, on partage. Et c'est pour ça que la connaissance relationnelle de Dieu, le fait d'être en relation, en communion, en connexion avec lui, est plus forte, plus grande que ce que je sais de lui. Parce que par rapport à un Dieu infini, de toute façon, tout ce que je sais, dans le sens savoir, c'est forcément peu par rapport à ce qu'il est. Mais ça n'empêche pas que si je le connais, je le connais intimement, sans tout savoir, sans tout comprendre. Et encore une fois, ce n'est pas du tout un encouragement à ne pas comprendre, parce que Dieu nous a voulu un petit peu intelligent. Il veut qu'on cherche, qu'on creuse, qu'on comprenne. Hein, c'est surtout pas... Réfléchis pas, crois. Non, non, c'est pas du tout ça. Mais par contre, on peut pas tout comprendre. On comprend ce qu'on peut, ce qui est à notre portée, ce qu'on trouve. Mais on peut connaître, être en relation. Et ces choses-là se mettent ensemble parce que cette relation-là qu'on va développer, rien ne peut nous en détacher. Et c'est pour ça que lorsque Paul dit... Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs au travers de celui qui nous a aimés. Il dit pas que dans tout ce qui arrive, Dieu va changer les choses pour que ça aille bien. Il dit que dans tout ce qui arrive, il va nous toucher, nous, pour que ça aille bien. Et pas les situations, parce que on le sait tous, hein, si devenir chrétien, c'était résoudre les situations problématiques qui nous entourent, tout le monde deviendrait rapidement chrétien, d'une part. Et puis, ça serait vraiment intéressant au premier abord, hein. Visiblement. C'est pas le cas. Les chrétiens n'ont pas plus de problèmes que les autres, mais pas moins, et souvent plus aussi, s'ils veulent vivre avec Christ. Hein. C'est pour ça que le changement, ou la victoire plutôt que Dieu nous promet, c'est pas que les situations vont changer, c'est que ce qu'il fait en nous nous permet de traverser ces choses-là, parce que de toute façon, il n'y a rien qui peut nous séparer. Hein. Le pire qui puisse arriver, c'est quoi? Bah, c'est que je laisse la voiture pour continuer en bateau. Mais c'est pas le pire. Hein. Le pire, ce serait de vivre sans lui. Parce que l'enfer, bien sûr, c'est pas un lieu avec des rôtissoirs où on prend le jus dessous, on le remet dessus. Hein. C'est quoi? C'est être séparé. Et puis, c'est le choix de l'être humain d'accepter cette séparation ou de la refuser. Et c'est pour ça que c'est tellement important de laisser ces convictions venir habiter en nous. Une conviction, elle nous empêche pas de mal faire, mais elle fait que nous savons que nous faisons mal. Une conviction, lorsqu'elle est gravée en nous, c'est comme une boussole. Quand vous avez une boussole, vous savez où est le nord. Vous pouvez décider d'aller au sud, vous pouvez décider d'aller à l'est, vous pouvez décider d'aller à l'ouest, même si vous savez que votre route, c'est le nord. Hein. Mais par contre... elle ne ment pas. Vous avez beau essayer de lui dire, écoute, j'aimerais mieux aller là-bas, tu veux pas? Elle ne peut pas mentir. La conviction a le même rôle dans nos vies. Enfin, elle pourrait, si on a moyen de tricher. Mais... hein, on va limiter l'image. Un gros aimant à côté, et elle va où on veut. Il y a plein de choses comme ça. Mais la conviction va faire le même travail dans nos vies. Hein. C'est pas parce que j'ai une conviction que je... ça serait bien, mais... que je vais plus faire d'erreurs. Par contre, je sais que je suis dans l'erreur. Et donc, je peux demander pardon à Dieu, revenir et reprendre ma route. Mais cette conviction-là en particulier, je crois qu'elle est tellement essentielle parce qu'elle va nous donner la force d'assimiler les autres convictions. Si je comprends que rien ne peut me séparer, il n'y a pas de vide qui peut se mettre entre nous. Et d'ailleurs, la grande séparation qui nous est épargnée si nous connaissons Christ, Christ l'a connue. La souffrance de la croix, bien sûr, il y avait tout le physique qui devait être horrible, flagellé, les clous, etc. Mais il y a plein d'autres êtres humains qui l'ont vécu. Par contre, les heures sur la croix, là où même le soleil refusait de briller, où il y avait tout qui s'est arrêté, c'était le blackout complet, on avait coupé les plombs dans l'univers. C'était la séparation. Il y a eu un espace entre le Fils et le Père. C'est incompréhensible pour nous, mais c'est le prix qui a été payé pour que maintenant on puisse avoir cette conviction. Il n'y a rien qui peut me séparer. Rien. Il n'y a rien. Et puis c'est tragique parce que je sais ça, aujourd'hui j'en vis, ça me remplit, mais dans 2 jours, dans 3 jours, dans 1 semaine, dans quelques jours, je suis pris dans mes détails, mes situations, mes machins, mes si, mes soucis, hein, les factures, les impôts, là, là, les enfants, là, là, et j'oublie ça. Hein. J'ai toujours la boussole, mais elle est dans ma poche arrière et je la vois plus. Et puis je vis misérablement, et puis j'ai peur pour tout, puis j'ai angoisse, puis je me fais des soucis. Puis... Et c'est là où on a besoin les uns les autres, on a besoin de la parole de Dieu, on a besoin du Saint-Esprit, on a besoin de s'encourager, on a besoin de tout ça. Pour que tout d'un coup ça revienne. Tu es en route, tu as une destinée éternelle, tu es à l'école, tu es en train d'apprendre, il y a des moments difficiles, tu as raté un examen, c'est pas grave, il y en aura d'autres, hein, tu n'as pas le temps de faire ça, ben c'est pour plus tard, il n'y a pas ça, mais... et puis il est avec nous et il n'y a rien qui peut nous séparer de cet amour. Et tout d'un coup il n'y a rien qui a changé autour. C'est toujours le bazar, c'est toujours irrésolu, c'est toujours compliqué, ça fait toujours autant mal, mais tout d'un coup, on peut... Ah oui, je suis vainqueur. Dans la situation, pas sur la situation, mais dedans, avec lui. Et hop, j'ai ressorti la boussole et je continue ma route. Alors Seigneur, nous te remercions pour ces convictions que tu mets en nous, pour ce travail en profondeur que tu veux faire dans nos vies. Et nous te demandons de nous communiquer toute cette joie, toute cette assurance qui vient de cette conviction qu'il n'y a rien qui peut nous éloigner de toi, qu'il n'y a rien qui peut se mettre entre toi et nous, même pas nos échecs, même pas nos quoi que ce soit, Seigneur, parce que tu as fait ce qu'il fallait pour ça, pour que nous ne soyons jamais séparés. Merci pour la grandeur de cette espérance, parce qu'elle n'est pas une illusion, parce qu'elle est certifié, attesté par ton amour qui est répandu dans nos cœurs et qu'elle nous conduit jour après jour dans ta présence, Seigneur. Amen.